Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Deux combattants ADF ont été tués et un autre capturé dans une nouvelle attaque de ces rebelles mardi soir à Ngité, près de la ville de Beni. Et pour dénoncer la multiplication de ces attaques des ADF, des jeunes de Ngité ont manifesté dans la ville ce jeudi. Début ce jeudi, au sud Kivu de la campagne électorale pour les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, les prétendants sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs défilent tour à tour devant les députés provinciaux pour prétendre les convaincre à obtenir leur voix. Xavier Assani est l'invité de ce journal. Il est le coordonnateur de Komaji, collectif des mouvements associatifs des jeunes ituriens Komaji, qui propose au gouvernement des pistes de solutions pour le retour définitif de la paix en Ituri. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Au nord Kivu et dans le territoire de Beni, deux combattants ADF ont été tués et un autre capturé dans une nouvelle attaque de ces rebelles mardi soir à Ngité, localité située à 17 km du centre-ville de Beni. Dans la foulée ce jeudi, des jeunes de Ngité ont manifesté pour dénoncer la multiplication de ces attaques, paralysant du coup toutes les activités dans la ville. Les détails avec Marc Marofimo.
C'est vers 20h, heure locale, que les ADF ont attaqué le village de Ngité. Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants, à provenance de la région des Sayo, à l'ouest de la ville de Beni, voulaient traverser la route nationale numéro 4 pour se diriger vers le village de Masulukwede. Des militaires congolais et ougandais positionnés à Ngité sont immédiatement intervenus. Des violents affrontements s'en sont suivis. Deux rebelles ont été tués et un autre capturé. Jean-Paul Ngangundi, l'un des rescapés de cette attaque des ADF à Ngité, salue l'intervention de la force conjointe FRDC ou PDF.
Tout ce que je peux donner comme message, c'est de demander à la population de continuer à soutenir notre armée, à soutenir l'IPDF qui est venu en appui à notre armée, parce que moi, j'ai vu comment ils se sont échangés des coups et il y a eu des résultats. Et donc, nous ne pouvons que les encourager de continuer dans ce sens-là et demander peut-être à l'État congolais de le mettre dans de bonnes conditions, à le doter de tous les moyens nécessaires pour qu'il soit même de travailler pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.
Ce jeudi, pour manifester leur désarroi, des jeunes ont manifesté en érigeant des barricades à Ngité Mavivi. Conséquemment, toutes les activités ont été paralysées dans cette partie de la ville de Beni. L'armée et la police sont intervenues pour rétablir l'ordre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En Ituri, fin de la visite de 72 heures à Bunia de la délégation des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, des membres de la Cour pénale internationale et du Fonds au profit des victimes. Au cours d'un échange avec la presse, ils reconnaissent que de nombreuses victimes de violences des groupes armés attendent réparation. Ils espèrent que des crimes qui continuent à être commis dans cette province ne resteront pas impunis et leurs auteurs répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Le point avec Jean-Claude Lokidile qui a pris part à cette conférence de presse.
Cette descente sur le terrain avait comme pour but de rencontrer les préoccupations des bénéficiaires du programme de fonds au profit des victimes et palper du doigt les réalisations faites dans le cadre de soutien aux survivants des massacres de civils de 2003. Perrin Dembechambo, le juge de la CPI, énumère certains projets exécutés.
Soutien au logement. Deuxième catégorie, les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois la formation, mais aussi on leur a donné, là où ils les avaient perdus, du bétail. Permettre aux familles d'envoyer leurs enfants dans les écoles et la possibilité de consulter des médecins pour aider à remonter les traumatismes.
Pour le professeur Taylor Lubanga, point focal chargé de suivi de la coopération avec la CPI auprès de la présidence de la République démocratique du Congo, c'est un message fort pour les auteurs des crimes qui se commettent en RDC pour qu'ils sachent que ces actes ne resteront pas impunis.
Tout le sens de cette journée, c'est aussi de dire qu'il n'existe pas de crimes impunis et que les criminels ou ceux qui sont tentés de commettre les crimes ou qui sont tentés de s'associer aux auteurs des crimes. La journée d'aujourd'hui leur a servi, je pense, des leçons.
D'autres programmes de réparation pour les victimes des crimes commis en Ituri dans les affaires Thomas Lubanga et Bosco Taganda sont en cours d'exécution. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis, s'exprimant de son côté devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, a dressé un bilan alarmant de la situation dans l'est de la RDC, marquée par les tensions persistantes avec le Rwanda. Plus de détails avec vous, Jean Ganduka Bongo.
Le responsable onusien a souligné que cette situation tendue présente un risque d'embrasement régional. Wang Xia a expliqué que les tensions entre la RDC et son voisin le Rwanda non seulement persistent, mais elles se sont également exacerbées avec les affrontements répétés entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'envoyé de l'ONU s'est dit préoccupé par la gravité de la situation, marquée notamment par l'intensification du conflit et la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Il a fait observer que la persistance de la confrontation entre ces deux pays voisins sur fond d'accusations réciproques et des plans de déstabilisation et la flambée des discours de haine augmentaient le risque de l'embrasement régional. M. Xia a noté par ailleurs que les tensions entre le Burundi et le Rwanda, liées étroitement à la situation dans l'est de la RDC, aggravent encore la situation déjà préoccupante et compromettent le progrès significatif enregistré depuis 2020 dans les relations entre ces deux pays.
Sud Kivu, plus de 20 ans après leur déploiement en RDC, les casques bleus de la République islamique du Pakistan s'apprêtent à quitter le pays. Ce contingent occupe en termes d'effectifs le premier rang des troupes de l'ONU déployées dans la province du Sud Kivu. Les troupes pakistanaises ont conduit plusieurs opérations militaires visant à protéger les populations civiles et à maintenir la paix et la sécurité dans cette province. Rejoignons tout de suite notre reporter sur place au Sud Kivu, Rachel Kiesembangu. Rachel, comment s'est déroulée cette cérémonie et dans quelle ambiance?
Effectivement, nous sommes à Kavumu, territoire de Kabare, situé à 32 km de Bukavu. La température est de 21 degrés, le soleil est au rendez-vous, mais accompagné d'un air frais. C'est dans cette ambiance que les casques bleus pakistanais, qui ont servi plus de deux décennies en RDC, organisent cette ultime phase qui annonce leur départ du sol congolais. La cérémonie a été marquée par des discours des autorités congolaises et onusiennes. Il s'agit respectivement du ministre provincial des infrastructures au Sud Kivu, représentant du gouverneur intérimaire Sissa Wanumbe et de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Depuis 2003, date de leur premier déploiement, des milliers de casques bleus pakistanais ont servi dans le Sud Kivu et 31 parmi eux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en quête de la paix. Pour le Pakistan, ce chiffre représente le plus fort taux de mortalité de son histoire en rapport avec les missions de maintien de la paix. Tout compte fait, à compter d'aujourd'hui, la MONUSCO transfère la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils aux forces des défenses et des sécurités de la RDC qui continueront à assumer cette responsabilité en étroite coordination avec les communautés et les autorités locales. De Kavumu, Rachel Kiesé pour Radio Okapi.
La campagne électorale pour les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs a bel et bien démarré ce jeudi à Bukavu au Sud Kivu. Les prétendants sénateurs et gouverneurs de province défilent tour à tour devant les députés provinciaux pour prétendre les convaincre à obtenir leur voix dans l'urne le lundi 29 avril. Pendant ce temps, un dispositif important de la police est mis en place pour un bon déroulement de cette campagne électorale à Bukavu. Au Kasaï central, le bureau de l'Assemblée provinciale a lui publié hier le calendrier des auditions des candidats dans la course à la tête de la province. Cet exercice s'étale sur 3 jours pour les différents concurrents. François Kadima.
Les plénières d'audition se déroulent à partir de ce jeudi jusqu'au samedi. Chaque candidat aura 45 minutes pour convaincre les députés provinciaux appelés à choisir les prochains gouverneurs du Kasa central et son vice. Dans la course, l'on retrouve 9 challengers, dont 4 femmes. Pour les auditions de ce jeudi, 3 candidates en lice. C'est notamment Annie Balaï, Astrid Madia et Lisette Sangana. Pour le vendredi, John Kabayaki, candidat à sa propre succession à la tête de la province, se présentera devant les députés provinciaux. Denise Dissochoa et 7 autres candidates femmes alignées ce jour. Le troisième sur la liste est Jean-Marie Nyengele. Pour le troisième et dernier jour, les députés provinciaux attendent Dieudonné Dikita, Joseph Moïse Kamboulou qui est revenu dans la course à la suite d'une décision de la Cour d'appel du Kasaï central après avoir été écarté par la CENI. Le dernier qui va clôturer la série d'auditions, c'est Célestin Sangana. Au niveau de la CENI, l'on souhaite voir ces étapes jusqu'aux élections prévues le lundi prochain se dérouler dans la transparence. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Quant au bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il demande, lui, au Conseil d'État d'ordonner en toute urgence des mesures conservatoires devant lui permettre d'exercer sa liberté de réunion des plénières. C'est une requête contre une décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Cette décision suspend les plénières de cet organe au motif des troubles à l'ordre public lors de l'élection de son bureau définitif. Alexis Nkumu Isangola, président de ce bureau, a à travers ses conseils a plaidé hier mercredi au cours d'une audience publique devant le Conseil d'État. Il a exposé les faits en cause. L'affaire a été prise en délibéré et la décision du juge est attendue dans 48 heures. Jeff Ngoy.
La décision du vice-premier ministre est contenue dans son message officiel numéro 25 du 2 avril. Ce message interdit toute plénière au sein ou en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Il fait allusion à l'absence de sérénité des élections et installation des membres du bureau définitif qui auraient troublé l'ordre public le 2 avril. Pour le requérant, l'ordre public n'a jamais été troublé. Il estime que la suspension des plénières de l'organe délibérant de l'Équateur est non seulement un excès de pouvoir de la part du vice-premier ministre et la violation du principe sacro-saint de séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, mais aussi et surtout une atteinte grave à la liberté politique dont bénéficie cet organe de tenir ses plénières. En plus, la méconnaissance du droit de chaque député à pouvoir jouir de son droit de vote à la plénière destinée aux élections des gouverneurs et sénateurs le 29 avril prochain. Il plaide ainsi pour que le juge de référé liberté déclare la décision de Peter Kazadi illégale en ce qu'elle violerait les articles 197 de la Constitution et 15 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et par conséquent d'ordonner sa levée et des mesures tendant à la sauvegarde de la liberté de l'Assemblée provinciale.
La communauté internationale célèbre le 25 avril la journée internationale de lutte contre le paludisme. À Bandundouville, province du Kwilu, la division provinciale de la santé, en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme PNLP, a organisé cet avant-midi une caravane motorisée sur les grandes artères de la ville pour sensibiliser la population sur l'existence de cette maladie et le mode de prévention. À l'issue de cette caravane, le lancement officiel des activités de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme aura lieu dans la salle paroissiale Saint-Hippolyte par le gouverneur de province Félicien Kiwai Mwadi. Et puis dans le Maniema, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, le coordonnateur provincial de la Maison de l'Artémisia, Amissi Abdallah, invite toute la population à consommer l'Artémisia, étant donné que cette tisane est déjà approuvée par l'OMS pour traiter le paludisme. On écoute Amissi Abdallah au micro de Florence Kizalunga.
Nous, comme Maison de l'Artémisia Maniema, nous sommes en train de sensibiliser la population à consommer l'Artémisia pour lutter contre le paludisme, la bilharziose ainsi que beaucoup d'autres maladies. Et nous donnons un message à la population de Kindu en particulier et du Maniema en général de consommer l'Artémisia parce que c'est déjà approuvé par l'OMS. Le monde entier consomme déjà l'Artémisia et quiconque prendre notre tisane gratuitement ne sera jamais attrapé par le paludisme. Le thème que nous avons, c'est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Et en tout cas, je suis en train de donner un message à la population que vous pouvez venir à la Maison de l'Artémisia et vous aurez gratuitement la tisane et nous-mêmes nous saurons comment vous prendre en charge du débit de votre dépistage jusqu'à la guérison. Ça, c'est le message que nous donnons à la population de Kindu et au Maniema en général.
L'invité.
En Ituri, les groupes armés Codeco, Zaïre, FRPI et FPIC ont signé vendredi dernier l'acte d'engagement de cessation des hostilités dans la province de l'Ituri. C'était en présence du vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Cependant, nombreux sont ceux qui, au sein de l'opinion, s'interrogent sur le sérieux de ce quatrième accord de paix signé par ces groupes armés sans que cela ne puisse mettre fin aux tueries dans les territoires de Djougou et Irumu. Le collectif des mouvements associatifs des jeunes Ituriens Komaji propose au gouvernement des pistes des solutions pour le retour définitif de la paix en Ituri. Xavier Assani, coordonnateur de Komaji, s'entretient avec Martial Kizabiamongo.
Xavier Sadi, bonjour.
Bonjour Martial.
Pourquoi le collectif des mouvements associatifs de jeunes ituriens reste sceptique après la signature vendredi d'un acte d'engagement de la cessation des hostilités par les groupes armés devant les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba ici à Bounia?
Martial, vous le savez, c'est pas la première fois que le groupe armé puisse s'engager autour de la cessation des hostilités. Nous restons un peu sceptiques par rapport aux résultats des engagements pris précédemment avec ces mêmes groupes armés, engagement qui ne nous a pas aidé à atteindre les objectifs en termes de retour de la paix, parce que avant la récente signature d'un acte d'engagement, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à ce qui concerne la paix. On a Nairobi, on a les actes d'engagement unilatérales signés au gouvernorat, on a Anrou, et aujourd'hui c'est la quatrième signature d'un acte d'engagement. Partant des résultats des trois premiers actes d'engagement pris, nous sommes rester vraiment sceptique par rapport au nouveau engagement que ces groupes armés viennent de prendre, d'autant plus que tous les trois autres n'ont pas permis à ceux qui respectent les engagements qu'ils ont pris de cesser les faits et d'observer en attendant le désarmement et la réintégration dans leur vie civile.
Alors, ces groupes armés ont quand même bras contre les chefs de l'État en personne, n'est-ce pas un signe de détermination du gouvernement pour rétablir la paix durable en Ituri?
Effectivement, nous sommes en train de louer cette volonté du gouvernement qui ne cesse de fournir l'effort pour nous ramener ce qui nous a manqué depuis longtemps, la paix. Mais il se pose un problème, parce que je vous ai démontré ici que ces gens ne sont pas à leur premier engagement. Il se démontre qu'il y a un problème de la volonté dans les cas adverses, c'est-à-dire dans les cas des groupes armés. Le gouvernement, étant responsable de la sécurité, est en train de mettre en place des stratégies que nous encourageons. Parce que la guerre, il faut l'affronter surtout dans toutes les approches. Et aujourd'hui, nous disons, ils sont allés raconter les chefs de l'État. On suppose qu'ils ont déposé ce qui les a poussés à prendre les armes, ce qui les motive à massacrer la population. J'espère qu'ils ont eu le temps de parler avec les garas de la nation. Et nous pensons qu'après ces actes d'engagement, ça va pas encore être une façon pour eux de diper ou d'endormir le gouvernement et la communauté internationale.
Alors, les collectifs des mouvements associatifs de jeunes ituriens craignent quoi?
Nous craignons à ce que cette nouvelle signature d'acte d'engagement soit une manière pour ces groupes armés d'endormir et de distraire le gouvernement et en fait et la communauté internationale et continuer à faire calmement leurs bêtises de massacrer la population civile.
Quelles sont vos recommandations, gouvernement, pour une paix durable dans cette province meurtrie depuis 2017?
Nous, en tant que collectif, on voulait proposer au gouvernement cette fois-ci, après engagement de ces groupes armés, pendant cette période d'accalmie où ils sont en train d'attendre l'issue des engagements qu'ils ont pris, de commencer à identifier les éléments au sein de ces groupes armés, que ça soit CODECO, FPIC, FRPI, Zahir, MAPI, etc., pour essayer de dénicher les volontaires. Parce que le gouvernement vient de créer un corps de volontaires qui veulent défendre la patrie. Parmi ces groupes armés, il y a ceux qui se réclament de gens qui sont en train de lutter contre la balkanisation. Eh bien, la balkanisation, c'est à Goma. L'agresseur est à Goma. Qu'on identifie les éléments au sein de ces groupes armés qui vont vouloir servir comme des volontaires, qu'on les amène là-bas, qu'on désarme ceux qui ne vont pas vouloir continuer ou bien servir comme des volontaires, qu'on frappe tous les réfractaires à ces nouveaux engagements qu'ils viennent de prendre.
Alors, vous, comme association de jeunes, quelle est votre contribution pour les retours de la paix à Ituri?
Comme association, je pense que nous allons rester dans la sensibilisation, parce que c'est la seule arme que nous avons pour conscientiser nos frères qui ont pris les armes, ceux qui veulent continuer à servir comme des militaires, de pouvoir aller réintégrer les VDP, parce que il faut se le dire que depuis un moment, le gouvernement a refusé l'intégration des groupes armés. Mais il a quand même ouvert une brèche pour ceux qui veulent servir le pays sous cette casquette, d'aller appuyer les opérations militaires.
Les réservistes de FRDC.
Effectivement. Alors, nous passons comme association, nous allons continuer à conscientiser, à sensibiliser ceux qui sont là-bas et d'aller rejoindre les amis qui défendent la patrie vers Goma et ceux qui vont vouloir rentrer dans la vie civile de déposer les armes.
Xavier Assadi, merci.
Merci à vous également, merci à la Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. À la présentation des éditions d'information depuis 5 heures ce jeudi, c'était Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Nsualu sous la coordination de Blaise Jordan Shindani Kambala. Place à présent au journal de sport avec Kanish Mukongo.